Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Au sommaire de cette édition, hausse des prix du ciment et du fer à béton à Bamako, alors que les consommateurs dénoncent cette nouvelle augmentation des prix de ces matériaux de construction, les vendeurs la justifient par le manque d'usines de qualité au Mali et la Covid-19. Après la CEDEAO, l'Union africaine a à son tour suspendu le Mali de ses instances. Selon des observateurs, cette suspension aura des conséquences politiques sur le pays. Alors que le pays fait face à la pression internationale suite au coup de force du 24 mai dernier, des mouvements continuent de se créer à Bamako, certains pour soutenir l'action des militaires et d'autres pour la dénoncer. Tout de suite le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo à la mise en onde de Noubou Mdjiré. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le prix du ciment et celui du fer à béton connaissent une augmentation sur le marché ces derniers jours à Bamako. La tonne du ciment qui était vendue à 90 000 francs est actuellement cédée à 110 000 francs CFA. Selon les vendeurs, plusieurs raisons justifient cette hausse des prix, notamment le manque d'usines de qualité au Mali et la crise sanitaire due à la Covid-19. Du côté des consommateurs, ils ne cachent pas leur ras-le-bol. Plus de détails avec Elisa.
Le prix du sac de ciment varie actuellement entre 5 500 francs et 6 000 francs et celui du fer à béton entre 2 500 francs et 3 000 francs dans les quincailleries. Pour le vice-président de l'ASCOMA, Abdel Wahab Djakité, cette flambée des prix de ces articles pourrait avoir d'énormes impacts auprès des citoyens lambda.
Par essence même, les consommateurs n'aiment pas les augmentations parce que ça ajuste toujours sur le pouvoir d'achat. Ils veulent aspirer à des conditions de humeur. L'un des besoins essentiels, c'est de se faire loger. Et quand les prix augmentent, c'est sûr que le Malien lambda a des difficultés par rapport au logement. Certains opérateurs pourraient effectivement profiter de cette tension-là pour essayer de maintenir des prix extrêmement élevés.
Cette augmentation est due à la baisse des quantités de ciment et de fer importés du Sénégal, au manque d'usines de qualité ici au Mali, mais surtout à la Covid-19, c'est du moins ce qu'affirment certains vendeurs.
On importe du ciment au Sénégal. Là-bas, ils sont en grève. On ne peut pas importer du ciment. On dit que le Mali a une usine de ciment, alors que le Mali travaille avec des produits d'autres pays. Des fois, on nous donne la tonne de ciment à 105 000 francs et nous, on la commercialise à 110 000 francs. Quand les prix baissent un jour, voire deux jours, ils grimpent à nouveau. Des fois, ils avancent que c'est dû au fait qu'il y a la maladie à coronavirus que les produits n'entrent plus.
De son côté, la Direction nationale du commerce, de la consommation et de la concurrence estime que cette augmentation s'explique par la récente grève de l'INTM. Elle affirme que son service a accentué la surveillance dans les marchés.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Suite au coup de force du 24 mai dernier, les réactions des organisations internationales se poursuivent. L'Union africaine a suspendu à son tour le Mali de ses instances. Selon des observateurs, cette suspension n'est pas à confondre avec des sanctions qu'on a eues par le passé. Ils estiment que les conséquences seraient plutôt politique qu'économique. Écoutons Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur, spécialiste en relations internationales. Il est joint par Mamadou Samasekou.
Cette exclusion va avoir plutôt des conséquences politiques parce que le fait que le pays ne siège pas, par exemple, au conseil des chefs d'État de la CEDEAO, c'est là que, par exemple, le Mali ne pourrait pas porter certains plaidoyers. Voyez-vous, imaginons que l'État Mali, par exemple, a un projet, par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest, qu'il voudrait faire passer, il ne pourra pas le faire. Une difficulté est que, par rapport à la situation actuelle du Mali, on aura du mal à plaider, n'est-ce pas, sur certaines questions de réforme qu'on voudrait engagé. Parce que vous le savez autant que moi, en diplomatie, la relation cordiale permet, n'est-ce pas, de pouvoir mieux influencer parfois. Donc l'exclusion, si elle n'a pas d'impact direct économique, elle va avoir quand même un impact politique sur le Mali.
Quelle suite pour la transition au Mali? Colonel Assimi Goïta restera-t-il président de cette transition face à la demande de l'Union africaine? En attendant des réponses à ces questions, les mouvements qui soutiennent ou dénoncent le coup de force se multiplient. Plus de détails avec Abdrahmane Maïga.
Au lendemain du coup de force du lundi 24 mai, des jeunes se sont rassemblés devant la Bourse du Travail avant de se retrouver plus tard pour créer un mouvement nommé « Sauvons la démocratie des putschistes ». Ces regroupements condamnent l'ingérence des militaires dans le pouvoir et demandent à ces derniers de se battre plutôt au front que pour des postes ministériels. D'autres mouvements soutiennent aussi les militaires qui dirigent le pays en ce moment. Il s'agit notamment d'appels citoyens pour la réussite de la transition ACRT et du corps des volontaires pour la réussite de la transition CVRT. Le mouvement CVRT préconise également une intervention de la Russie au Mali et demande plus de partenariat entre les deux pays, en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement attendu dans un contexte où l'Union africaine demande que cette transition soit dirigée par des civils. D'autres mouvements comme Anté Ansemboala continuent de voir le jour dans le pays.
8h06 à Bamako, les autorités scolaires ont annoncé cette semaine les dates des examens de fin d'année 2020-2021 au camp des réfugiés maliens à Mbera, en Mauritanie. Les responsables se disent prêts. Ils estiment que le programme se poursuit déjà normalement. Mohamed Ag Ibrahim, directeur adjoint au collège de Mbera, est joint par Mohamed Ali Ag Aleida.
Si au camp de Mbera, le lycée, le collège et nos candidats sont prêts pour affronter les examens du DEF et du BAC. Les candidats ont suivi le programme normalement. Ils sont dans le temps, il n'y a aucune perturbation qui les oblige à ne pas être dans le programme. Nos enseignants sont présents, ils ont enseigné presque tout le programme, presque, parce qu'on n'a subi aucune perturbation ni de grève. Pour le DEF, on a 106 candidats au total, dont 76 garçons et 36. Pour le BAC, on a deux séries, une série TLL et une série TESCO. Pour la série TLL, on a 125 candidats au total, dont 92 garçons et 29 filles. Et pour la série TESCO, on a 23 candidats au total, dont 15 garçons et 8 filles.
À l'instant, c'était Mohamed Ag Ibrahim, directeur adjoint du collège de Mbera au camp des réfugiés maliens à Mauritanie. De la Mauritanie, nous nous rendons à présent à Dakar au Sénégal. 1000 à 2000 véhicules d'occasion, communément appelés Au revoir la France, quittent chaque semaine le port de Dakar pour approvisionner les parkings privés de Bamako. Cette estimation est donnée par des chauffeurs qui viennent chercher ces voitures au port de Dakar. Ils disent travailler dans des conditions déplorables. Déjà, le secteur n'est pas réglementé, ils ne sont pas assurés, ils font face à la corruption tout au long du trajet. Et ce n'est pas le pire, une fois à Dakar, en attendant l'octroi de tous les documents administratifs, ces automobilistes dorment pour la plupart à la belle étoile. Mariam Koulibaly s'est rendue sur leur site à Dakar, écoutons son reportage.
Ces chauffeurs affirment recevoir entre 50 000 et 75 000 francs CFA avec les mandataires. Selon eux, c'est avec cet argent qu'ils doivent payer leur transport pour Dakar, la nourriture, l'hébergement et gérer les tracasseries routières et espérer nourrir la famille avec ce qui reste. C'est ce que nous explique M. Gallo qui exerce ce métier depuis 2015.
75 000 francs, c'est à ce prix que je viens chercher les véhicules au port et je dois me prendre en charge avec. Après l'acquisition de ta voiture, tu peux passer 2 à 3 jours à attendre les documents. Nous avons un problème de stationnement. Le terrain qu'on nous a octroyé n'arrive pas à contenir tous les véhicules. Souvent, on nous menace de ramener le véhicule au niveau du port et de payer la somme de 200 000 francs comme amende. Les transitaires aussi ne sont pas fiables.
Ils sont plus d'une centaine de chauffeurs dans cette situation. Pour ces derniers, toute cette corruption incombe aux autorités routières maliennes.
Il y a maintenant moins de postes de contrôle au Mali. Ils faisaient payer les transporteurs sénégalais à tous ces postes, alors que chez eux, nous, on rentrait librement. Quand il y a eu aussi des plaintes à leur niveau, ils ont commencé à nous prendre de l'argent. Tant que nos autorités n'arrêteront pas de faire souffrir les ressortissants des autres pays, nous, on n'aura pas la paix à l'étranger.
Ces Maliens font venir à destination des véhicules personnels, mais aussi des camions, des cars et autres. Selon eux, leur voyage dure 3 à 1 mois. De Dakar, Mariam Koulibaly pour Studio Tamani.
Faisons à présent le point de l'évolution de la maladie à coronavirus. 10 nouveaux cas de coronavirus, 3 patients guéris et 0 décès ont été enregistrés hier mercredi par les autorités sanitaires. La situation cumulée donc de 14 281 cas positifs, 9 740 guéris et 517 décès. C'est ce qui nous conduit à votre rubrique Actu Covid présentée ce matin par Khalifa Gouita.
Studio Bienvenue dans votre rubrique consacrée à l'actualité de la maladie à coronavirus actif COVID. Pour ce numéro, nous vous proposons des questions posées par des auditeurs en lien avec le coronavirus. Elles sont répondues par des spécialistes de la santé.
Doit-on s'attendre à l'augmentation du nombre de contaminations au coronavirus pendant l'hivernage?
Actuellement, nous n'avons pas de données parlant de saisonnalité de la contagiosité du COVID. Ce qui est important, quelles qu'en soient les saisons, c'est l'application des mesures et la bonne pratique des mesures qui permettra de réduire l'incidence. Sinon, quant à dire, c'est, on vient de la saison chaude, on vient à la saison pluvieuse, ceci va réduire la survie des virus. Non, rien n'est clair dans ce sens. Il n'y a pas une histoire de saisonnalité.
Est-ce que se promener dans les espaces verts peut être facteur de contamination?
Là, c'est des zones qui vont occasionner les rapprochements entre les individus. Et chaque fois que les gens se rapprochent, sans les mesures barrières, il suffit d'avoir un malade parmi nous. Dès qu'il y a un malade, celui qui est proche de ce malade-là va être une personne exposée et peut attraper la maladie. Donc, ouvrir ces zones et ne pas respecter les mesures barrières, alors peut être vraiment une source de propagation de la maladie.
Y a-t-il un risque de porter un masque déjà utilisé?
Oui, si la personne qui avait déjà porté le masque a la maladie, déjà le masque est contaminé. Donc si l'enlève, quelqu'un d'autre le porte, donc ça peut contaminer cette personne. C'est pour cela que la majorité des masques non lavables, on propose à la personne de ne pas dépasser 4 heures de temps. Donc les masques lavables aussi, on ne doit pas dépasser 4 heures de temps, on doit nettoyer, laver chaque fois.
Allô, professeur, le coronavirus est-il en voie de disparition au Mali vu la baisse du taux de contamination ces derniers temps?
La pandémie n'est pas finie et que l'ardeur qu'on avait au départ, il faut qu'on continue la sensibilisation et aussi renforcer ces mesures barrières. C'est le seul moyen de cadrer cette pandémie, de prévenir. Ce sont des moyens qui ont fait montre de leur efficacité au départ.
C'est tout pour ce numéro d'ActiCovid. Merci de l'avoir suivi.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, à présent environ une quarantaine de jeunes venus des différentes communes du cercle de Kai ont échangé mardi dernier à Kai sur la politique nationale de prévention de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. L'objectif selon les organisateurs est d'aider les jeunes des différentes communes à mieux comprendre les objectifs de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. La rencontre était organisée par Think Peace en partenariat avec Mercy Corps sur le financement de l'USAID. À Gao, afin d'atténuer les souffrances des populations pour l'accès à l'eau potable, les autorités régionales ont initié mardi dernier une opération de distribution gratuite d'eau. Elle s'étendra sur 3 mois à Gao. L'opération est exécutée par la protection civile de Gao avec l'accompagnement de l'UNICEF. Les femmes ont accueilli cette initiative avec joie. Après l'enregistrement des premières pluies, le labour a commencé dans plusieurs villages du cercle de Yorosso. Certains ont même commencé à s'aimer quant aux cotonculteurs. Ils attendent que les techniciens de la CMDT, la compagnie malienne pour le développement du textile, leur donnent le feu vert avant de s'aimer. Plusieurs cotonculteurs se disent impatients de rattraper le manque à gagner de la dernière saison en cultivant plus de coton cette année. Selon les responsables de la CMDT, les intrants agricoles sont déjà sur place. Et c'est ce qui met fin à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo à la mise en onde de Nohum Djiré. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette édition sur notre site studiotamani.org ou en appelant sur la plateforme Viamo 37 321.